Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
Le soleil est encore présent à l'extérieur, mais je vous souhaite un bon début de soirée sur les ondes de choix 98.1 Radio X, édition du vendredi 4 avril 2025. Sans plus tarder, voici l'extrait audio qui débute l'émission de ce soir.
Depuis près de 3000 ans, l'homme cherche l'Arche d'Alliance, l'Arche perdue.
Selon la Bible, l'arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'arche.
Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'arche? Voulez-vous vraiment le savoir? C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu.
Une armée qui se ferait précéder de l'arche serait invincible.
Si l'arche d'alliance se trouve réellement à Tanis, la main de l'homme ne doit pas s'en approcher sous peine de mort.
L'arche perdue est protégée par des forces qui dépassent l'imagination. Et elle est convoitée, avant tous les autres trésors de ce monde, par les bons.
Fie-toi à moi.
Et par les mauvais.
Je vais tout vous dire, tout.
Oui, je sais que vous parlerez.
Les aventuriers de l'arche perdue.
L'arche est là! Écoutez, patron, si vous voulez toujours l'arche, elle va partir par camion au Caire. Baisse-toi !
Les aventuriers de l'arche perdue. Un film de Steven Spielberg et George Lucas.
Notre Indiana Jones à nous qui a maintenant une année de sagesse de plus, M. Christian Page, le maître. Bon anniversaire en retard, mon cher.
Merci, Camille.
J'invite les auditeurs à se joindre à moi et à te souhaiter un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux. J'espère que tu as passé une belle semaine.
Oh oui, absolument.
Super.
Et toujours un plaisir pour moi ce vendredi soir de te retrouver pour une nouvelle émission des Radio X-Files. Écoute, ça faisait un peu étrange d'entendre cette bande-annonce des aventuriers de l'Arche perdue, une production de 1981. Et on voit hein, comment la technique à tout le moins la publicité
des bandes-annonces,
transformé
ben oui.
Des bandes-annonces. Hein. Tu sais, un film de George Lucas et Steven Spielberg.
On n'a plus de narrateur comme ça maintenant.
Non, voilà, maintenant on prend des phrases ou des mots-clés qui sont dites dans le film et on les remonte de manière à créer une bande-annonce excessivement dynamique sans qu'on ait besoin de ce narrateur. Et bon, mais c'est vrai que Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est toujours un peu un plaisir. On reconnaît la thématique, le thème musical, hein, Indiana Jones, l'increvable archéologue. Et les gens pourraient se poser la question ce soir, parce que notre émission, c'est généralement... Hein, dans nos thématiques, l'émission de ce soir est plutôt consacrée à la parapsychologie et la cryptozoologie, alors que l'Arche d'Alliance, ben c'est une énigme historique.
Oui.
Donc, on serait tenté de se dire, mais que fait l'énigme historique en parapsychologie?
Il y aura un lien ce soir.
Mais il y a un lien, effectivement. Écoute, moi, je prends quand même quelques secondes pour te dire que je l'ai cherché, moi, l'Arche d'Alliance. Et ce fut pour moi, en fait, à une époque où j'ai tourné une série qui s'appelait « À la recherche des reliques saintes », l'Arche d'Alliance était l'un de ces objets qu'on a essayé de retrouver. Et ça a été pour moi un peu le voyage d'une vie, hein, ce type de truc-là. Ça a été une aventure à l'Indiana Jones. Hein. On est passé de la Terre Sainte à l'Égypte, on est allé jusqu'en Éthiopie. Je me rappelle qu'on était coincé par une crue des eaux d'une rivière. Et quand on est arrivé là, on avait un avion à reprendre à Addis Abeba. Je demande au guide, oui, ben là, nous, on a un avion à reprendre. Combien de temps? Puis là, il regarde la rivière puis il dit, ça va prendre le temps que la rivière redescende.
Oh
ça peut être des semaines, des mois. Bon, écoute, ça a été des trucs tout à fait fascinants. Je me suis rendu dans une petite ville qui s'appelle Aksum, en Éthiopie, où il y a une église qu'on appelle l'église de Sainte-Marie du Sion, qu'on dit être l'endroit où serait conservée l'Arche d'Alliance. Mais bon, tout ça fait partie d'une grande culture populaire, et sur le plan historique ou archéologique, on ne supporte pas beaucoup cette version-là.
On est beaucoup dans la légende.
Oui, on est beaucoup dans des légendes. Hein? Je veux dire, comme par exemple, comment l'Arche s'est-elle retrouvée en Éthiopie? Là, les gens disent, ouais, mais c'est parce que la reine de Saba a eu une aventure avec le roi Salomon. Or, l'Arche d'Alliance... Parce que là, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est cette Arche d'Alliance?
Ben, j'allais poser la question, c'est un peu trompe-l'œil quand on écrit Arche d'Alliance, quand on se rend compte que ça a l'air d'un gigantesque coffre-fort en or massif.
Oui, c'est ça. Donc, l'Arche d'Alliance, qu'est-ce que c'est? Hein? Évidemment, je parle de ça en me disant que tout le monde a vu l'Arche, le film Indiana Jones, et tout le monde sait ce que c'est que l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, on retrouve sa mention dans l'Exode, alors que Dieu va s'adresser à Moïse, hein, lui demande de fabriquer un coffre. Il lui donne des indications très précise. Hein? Moïse rencontre Dieu sur le mont Horeb, et là, Dieu lui dit, tu vas construire un coffre. Hein? Il dit, il y aura 2 coudées et demie de longueur par 1 coudée et demie de hauteur, 1 coudée et demie de largeur. Les indications de Dieu, hein, de Yahvé, sont très, très précises. Et là, il dit à Moïse, tu couvriras cette boîte, hein? Tu la couvriras d'or en dedans, en dehors, tu vas couler pour ce coffre un couvercle sur lequel tu mettras 2 chérubins avec les ailes tournées vers l'intérieur. Donc, encore une fois, hein, des détails très précis. Il dit à Moïse, une fois que l'arche sera terminée, tu reviendras sur la montagne, je te donnerai les tablettes sur lesquelles j'aurai mis les 10 commandements, et les 10 commandements seront dans l'arche, et l'arche va servir à déplacer les 10 commandements. Donc, c'est l'histoire qui nous est racontée dans l'Exode. Et donc, Moïse fabrique cette fameuse arche. Mais elle réapparaît de manière plus ou moins spontanée dans différents épisodes. Et l'un des épisodes les plus marquants, au-delà de sa construction, à un moment donné, après la mort de Moïse, Josué se retrouve avec l'arche. Hein, c'est lui qui a pris un peu le relais, qui remplace un peu Moïse à la tête des tribus d'Israël. Et à un moment donné, il va tourner autour des murs de Jéricho avec l'arche. Et ça va créer une espèce d'effet de domino, et les murs de Jéricho vont s'écrouler. D'où le fait qu'on dit que l'arche serait en même temps non seulement un coffret qui servirait à transporter les 10 commandements, mais ce serait également une relique qui contiendrait le pouvoir de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, quand Dieu parle à Moïse, il lui dit bien, une fois que l'arche sera terminée, que les gens qui la transporteront devront avoir des vêtements sacerdotaux très spéciaux. Et à un moment donné, hein, il y a un épisode assez troublant, où l'arche est comme sur une charrette, et une des roues de la charrette se brise, et l'arche glisse, et au moment où elle risque de tomber au sol, un Israélite qui est là tend la main pour empêcher l'arche de tomber, et il est foudroyé pour avoir touché à l'arche sans ses fameux vêtements sacerdotaux très spéciaux.
OK.
On dit également que quand la tribu d'Israël se déplace avec l'arche, elle est précédée d'une nuée. C'est un objet fabuleux. Vraiment, là, et je crois, là, honnêtement, là, en dehors de tous les concepts religieux, là, aucun objet n'est aussi fantastique que l'Arche d'Alliance. Quand on regarde ce qu'elle était capable de faire, le pouvoir qu'elle avait, Dieu qui parle entre les ailes des chérubins qui sont sur l'Arche, c'est un objet fantastique. Et donc, on a essayé on s'est amusé un peu à essayer de trouver l'Arche, mais en même temps, évidemment, on se documentait sur qui était Moïse, les tribus d'Israël et tout le reste. Et là, ici, bien sûr, on tombe dans le mythe et les légendes.
Oui.
Et j'allais te dire, l'Arche, selon le récit biblique, après cette épopée où l'Arche se déplace à gauche et à droite, elle se retrouve finalement à Jérusalem, où elle va être placée dans un sanctuaire très spécial, le Saint des Très-Saints, dans le temple de Salomon. Hein, c'est comme ça qu'on mentionne. Et puis, éventuellement, lorsque les Babyloniens de Nabucodonosor vont envahir Jérusalem, on est aux alentours à peu près de l'an 550 avant Jésus-Christ, les textes nous disent, ils se sont emparés de la vaisselle, ils se sont emparés des objets précieux, mais on ne mentionne pas l'arche. Et ça, c'est quand même étonnant que dans ce récit, Évidemment, si on suit cette vision un peu religieuse et mythique de l'arche, on peut se questionner pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on ne parle pas de l'arche. On nous dit, bon, les Babyloniens arrivent, ils saccagent le temple de Salomon, s'emparent des richesses du temple, mais aucun mot sur l'arche. Or, pourtant, l'arche, c'est l'objet le plus précieux du temple de Salomon. Elle a été placée dans le sein des très saints. Là. C'est l'objet. Là. C'est un peu comme si quelqu'un décidait d'aller piller le Louvre puis oublier de mentionner la Joconde. C'est un peu de ça qu'on se questionne. Et c'est là que le mythe apparaît. On se dit, ben, les gens qui veulent croire à la légende de l'arche, en supposant qu'elle ait existé, on se dit, ben, si l'arche existait, on aurait dû la mentionner. Si les textes sacrés ne la mentionnent pas, c'est parce qu'elle avait disparu. Donc, quand les Babyloniens de Nabucodonosor sont arrivés à Jérusalem, ben, l'arche n'est plus là. C'est pour ça qu'on ne la mentionne pas. Et pour la faire sortir de Jérusalem, ben là, on a imaginé des mythes et des légendes. Et l'un des mythes les plus persistants, c'est que le roi Salomon aurait eu une aventure avec la reine de Saba. Et la reine de Saba, qu'on nous dit être, selon la tradition, on nous dit que c'était l'Éthiopie. Et la reine de Saba aurait eu de cette relation un peu illicite, parce qu'ils n'étaient pas mariés, il y aurait eu un enfant qui serait né, et cet enfant, à la mort de la reine de Saba, serait retourné à Jérusalem. Il aurait rencontré le roi Salomon, qui l'aurait reconnu comme étant son fils. Et au moment où le fils retourne, le prince Ménélique va retourner en Éthiopie, ben, un des proches du roi Salomon va prendre l'arche et lui confier. Et c'est comme ça que l'arche va se retrouver en terre d'Éthiopie. Mais là, ça, c'est la tradition un peu populaire, et c'est la traduction qu'on voudrait aussi nous faire croire, hein, parce qu'il existe un ouvrage sacré en Éthiopie qui s'appelle le Cabranangaste. Mais le Cabranangaste est un livre beaucoup plus politique que religieux, hein, parce que les gens qui ont écrit le Cabranangaste veulent essayer de se trouver un lien, une filiation avec le roi Salomon. Okay. Donc, ils nous racontent cette histoire-là. Donc, si tu te réfères à ce livre-là, tu viens de te piéger, parce que le livre a été écrit pour créer une filiation entre les peuples d'Éthiopie et le roi Salomon, et éventuellement le christianisme naissant qui va suivre par la suite, mais d'abord la tradition monothéiste de Yahvé et ensuite le christianisme. Le problème de ça, c'est que quand on pose la question, et je le sais pour l'avoir fait sur le terrain, quand j'ai posé la question à des historiens, des archéologues, la reine de Saba, d'abord, on n'a aucune preuve qu'elle existait. Si elle a existé, elle venait probablement d'un milieu du Moyen-Orient. Donc, cette filiation-là avec l'Éthiopie, c'est purement esthétique et c'est purement politique. Parce que dans les faits, si le royaume de Saba existait, il est mentionné à quelques reprises dans des textes anciens. Donc, on suppose que le royaume de Saba a existé. On ignore, aucun de ces textes-là ne mentionne d'où il se trouvait, mais les peuples qui l'ont mentionné, ce royaume de Saba, étaient surtout des peuples qui faisaient commerce avec le Moyen-Orient. Donc, on a des bonnes raisons de croire que ce royaume de Saba était au Moyen-Orient et non pas en Éthiopie. Mais bon, c'est une belle légende, on aime l'histoire, et pour moi, ça a été fabuleux, cette quête de l'Arche d'Alliance. On s'est retrouvé en Égypte, on a essayé de suivre l'exode des Hébreux, le désert du Sinaï.
Ça t'a pris combien de temps pour faire pour ce voyage spécifique?
On était pratiquement 6 mois pour faire ce voyage-là.
Wow.
Tu marches dans l'histoire.
Ben oui.
Moi, je ne suis pas croyant, mais on est pris d'une espèce de... Il y a une espèce de vertige. Hein, quand on est sur l'Horeb, et aujourd'hui, il y a un monastère qui est là, le monastère Sainte-Catherine, de mémoire. Et cet endroit-là, on nous dit, ben, c'est ici, sur l'Horeb, que Moïse, à cet endroit-là, très précis, que Moïse a rencontré Dieu. C'est ici qu'il y avait le buisson ardent, hein, qui est mentionné dans l'Exode.
Hein, t'as un frisson pareil. Là.
Oui, parce que tu marches... tu marches dans l'histoire. Et tu sais que ces récits-là sont ce que l'on appelle, que ce soit des récits de l'islam, ou que ce soit des récits du christianisme, ou que ce soit des récits du judaïsme, ce sont ce qu'on appelle des récits fondateurs. Hein. La culture humaine est basée sur des récits fondateurs,
oui,
à partir desquels toutes les croyances, les codes moraux et les religions se sont fondées. Et cette histoire-là, évidemment, ce sont des textes, ce sont des éléments, des épisodes fondateurs du judaïsme. Écoute, tu marches dans l'histoire. Là, quand tu es là, tu dis, écoute, ces événements-là, la réalité, c'est sûr que la réalité historique et archéologique est souvent moins fabuleuse. Hein? Parce que quand tu poses la question aux archéologues, tu dis, écoutons, le mont Horeb, je suis allé sur le mont Horeb, et là, la première chose que l'archéologue te dit, c'est lequel?
Ah, il y en a quelques-uns.
Là, tu dis, ben, lequel? Le mont Horeb? Il dit, oui, mais à l'époque de Moïse, on est dans la chaîne du Sinaï, hein, qui est sur la péninsule qui sépare l'Israël de l'Égypte. Il dit, dans cette région-là, dans la péninsule, dans cette région-là du désert du Sinaï, il dit, il y a la chaîne de montagnes et le mont Horeb veut dire montagne de Dieu. Mais à l'époque de Moïse, il y avait 5 montagnes qui portaient le nom de montagne de Dieu. Mm. Fait que ça peut être une des 5. Tu comprends?
Oh, oui.
Dire que ça, c'est le mont Horeb sur lequel Moïse a rencontré Dieu, c'est la tradition qui veut ça. Parce que dans les faits historiques, on ne sait pas exactement sur quelle montagne cette rencontre, si rencontre a eu lieu, s'est vraiment produite, quelle était la montagne. Et la même chose, hein, quand on lit les textes bibliques, on nous dit, ben voilà, Moïse va fuir l'Égypte avec quelques 200 000 esclaves. Hein, ils vont aller dans le désert de Judée, dans le désert du Sinaï, où ils vont errer pendant 40 ans avant de pouvoir entrer en terre promise. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun de ces récits-là qui est mentionné dans des textes, en dehors des textes religieux. Alors, on comprend bien que si éventuellement un sauveur était venu en Égypte pour enlever 200 000 esclaves, les Égyptiens écrivaient sur tout. Hein. Les Égyptiens, écoute, ouais, ils ont des textes là, qui en finissent plus, des stèles et des stèles, pour te dire que la reine Cléopâtre a changé de chaussures. Ils ont des stèles énormes pour te raconter que la pêche a été mauvaise un 23 mai. C'est incroyable.
Ah ouais, les c'était des moments.
effectivement, ils devaient avoir un scribe sur les marges de l'église. Puis ils prenaient tout ce qui écrivait, tout ce qui se passait. Écoute, c'était, comme tu dis, des mémères. Et aucun des textes égyptiens, aucun des textes de cette époque ne parle de cet exode. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on sait que la plupart des gens qui ont travaillé au grand chantier de l'Égypte antique n'étaient pas des esclaves, mais étaient des employés de l'État. Donc déjà là, cette vision-là là, des esclaves que l'on voit dans l'Ancien Testament ou dans la Torah, là, c'est une image qui était un peu fantasmée, parce que dans la réalité archéologique montre que ce n'était pas tout à fait le cas. Il n'y a jamais eu 200 000 ouvriers comme ça, esclaves israélites, qui ont travaillé pour le pharaon. D'ailleurs, dans l'Exode, jamais on ne mentionne le nom du pharaon. Hein. Il n'est jamais mentionné. À chaque fois où on mentionne le pharaon, on a tendance à croire que c'est Ramsès II, mais le nom de Ramsès II n'est jamais mentionné, si ce n'est au tout début où on nous dit, hein, l'auteur, qu'on dit être Moïse, mais ça ne peut pas être Moïse parce que l'auteur raconte la mort de Moïse. Fait que Moïse n'a pas pu raconter sa propre mort. Mais bon, le texte est écrit de manière à la première personne, un peu comme si c'était Moïse qui écrivait ça. Et il dit, les Hébreux à ce moment-là étaient sous le contrôle de Pharaon après avoir construit les grandes cités de Ramsès II. Donc, il mentionne Ramsès II, mais étant le nom de la cité, pas le nom du pharaon. Et à chaque fois ensuite que le texte va rappeler le pharaon, il mentionne tout le temps pharaon. Pharaon fait ceci, pharaon dit cela, mais on ne sait pas de quel pharaon il parle. Et bien sûr, on peut quand même situer, les archéologues situent à peu près l'épisode de Moïse aux alentours à peu près de 1200 ou 1300 de l'ère commune. Il faudra attendre un 600 à 700 ans avant que ce texte-là soit écrit pour la première fois. Donc, les premiers récits écrits que l'on attribue à Moïse, hein, les premiers documents écrits de l'Exode, dans leur forme littéraire, ils apparaissent aux alentours de l'an 600 ou 700 avant l'ère commune. Mais le récit lui-même, cet épisode-là, cet événement-là, s'était passé aux alentours de 1200-1300, si l'événement s'était passé. Parce que les archéologues sont catégoriques, il n'y a jamais eu d'occupation massive du désert du Sinaï. Donc tu comprends que si on avait eu 200 000 esclaves qui fuyaient l'Égypte et qui avaient occupé le désert du Sinaï,
on aurait eu une trace
pendant 40
ça.
Ans, ben voilà, ça laisse des traces. On
voit des vidanges partout dans l'ère contemporaine, voilà, mais voilà, il n'y aurait pas eu d'artefacts de quoi que ce soit de 200 000 personnes.
Non, 200 000 personnes, tu comprends, qui occupent un territoire, ça laisse beaucoup de poteries, beaucoup d'éléments qui montrent montre qu'il y a eu une occupation massive. Or, ce que l'on retrouve dans le désert du Sinaï, c'est plutôt des petites occupations et des petites occupations qui ont été temporaires. Donc, visiblement, on est sur des routes commerciales, on a des petits groupes de gens et peut-être des petites communautés qui se sont déplacées à travers le désert du Sinaï. Ils ont occupé les lieux pendant une courte période de temps. Ça peut aller de quelques mois à quelques semaines à quelques mois, mais rien de très important. Et on a retrouvé quelques constructions dans le désert du Sinaï qui datent à peu près de 1200, à peu près donc de l'époque de Moïse. Mais encore là, ces vestiges-là qu'on a trouvés sont des vestiges qui ont été laissés par des petites communautés. Donc, si Moïse a existé, d'abord, il a certainement pas fui l'Égypte en emportant avec lui 200 000 esclaves égyptiens. Ici, il a existé et qu'il a occupé le Sinaï. Il était peut-être un chef de clan qui aurait occupé, qui dirigeait une petite communauté. Et peut-être que ce chef de clan s'est opposé un peu au... Parce qu'on est en Égypte, hein, on est dans le désert de l'Égypte. Peut-être qu'il s'est opposé à certaines politiques du pharaon de l'époque, ce qui a fait de lui un personnage plus grand que nature, et puis on lui a attribué toutes sortes de prouesses, hein, une espèce de, un peu comme Hercule, comme Goliath, hein, une espèce de héros fantasmé à qui on attribue toutes sortes d'exploits, mais qui en fait a peut-être été un véritable personnage historique, mais certainement pas le Moïse qu'on retrouve dans les Saintes Écritures. Okay. Cela étant dit, écoute, je pourrais t'en parler, j'adore cette histoire-là, c'est un sujet qui me passionne, je pense que ça se sent bien. Dès qu'on me lance là-dessus, je suis parti. Mais là où je voulais en venir,
oui.
On a cherché cette arche-là et il y a peu de chances qu'elle ait jamais existé. Là. C'est probablement simplement un récit fantastique.
Mais même si tu as passé 6 mois de dur travail et de voyage au travers de l'Égypte et du désert, peut-être, on en a parlé dans les dernières semaines, on a répété souvent le principe des sensitifs. Ça veut dire que tu étais peut-être mal outillé, Christian.
Oui, c'est pour ça. Parce que c'est là qu'on arrive à où on passe de l'histoire et de l'archéologie. On pense à la parapsychologie. Parce que, bon, si on essaie de suivre la piste de l'Arche d'Alliance, on l'a officiellement, au niveau littéraire, on perd sa trace au moment où les Babyloniens envahissent Jérusalem et détruisent le temple de Salomon. Donc, à partir de là, l'arche n'est plus jamais mentionnée. Elle n'est même pas mentionnée, d'ailleurs, dans ce pillage-là. Mais la dernière fois qu'on l'avait située, c'était dans le temple de Salomon. Okay. Alors là, c'est toutes les hypothèses possibles. Elle a été cachée sous le temple de Salomon, qui est aujourd'hui le rocher du Dôme. Hein, quand tu regardes, je ne sais pas si tu es allé en Israël. Quel magnifique
non,
pays.
J'aimerais ça, mais il y a eu un conflit avant que je puisse y aller.
Oui, malheureusement, c'était pas l'histoire des conflits. Quel magnifique pays. C'est fantastique. Quand on est à Jérusalem, et si on regarde des photos de Jérusalem, on voit ce qui domine la vieille ville de Jérusalem, c'est une mosquée avec un grand dôme doré. Hein, et ce grand dôme oui. doré, on l'appelle le dôme du rocher. Bon, maintenant, c'est un lieu important de l'islam. C'est le lieu où Mahomet s'est envolé. Hein, donc, on comprend que c'est l'un des grands lieux saints de l'islam. Mais outre ce temple, cette mosquée, elle est construite sur l'ancien palais d'Hérode, dont on peut voir encore un des murs, hein, le fameux mur des Lamentations, oui. qui est juste aux côtés de ce fameux dôme du rocher. Là. Le mur des Lamentations, c'est un ancien mur du temple d'Hérode, et non pas, comme je l'ai souvent entendu, un mur du temple de Salomon. Non, non. C'est un mur du temple d'Hérode. Et le temple d'Hérode était bâti sur les ruines du temple de Salomon.
Okay. Donc
on comprend que... Mais tout se passe dans ce petit quadrilatère. Hein? C'est d'abord le temple de Salomon qui devient le palais d'Hérode. Et à la destruction du palais d'Hérode, éventuellement, quand la ville va être conquise par les Ottomans, on va construire le fameux dôme du rocher. Bon. Et si l'Arche d'Alliance a été dissimulée sous le temple de Salomon... Ça veut dire qu'elle se trouverait aujourd'hui dans des cavernes qui sont ou des tunnels qui sont sous le dôme du rocher. Et ces tunnels-là, ils existent, hein, faut bien le dire.
Okay.
Des travaux archéologiques menés à la fin du 19e siècle montrent qu'il y a bel et bien des citernes et des tunnels sous le dôme du rocher. Mais il est hors de question de faire des fouilles archéologiques à cet endroit-là, puisque c'est un lieu saint de l'islam.
D'accord.
Donc, il est impossible. Donc, si l'arche n'est pas là... toujours en jouant la carte qu'elle a existé, elle a dû être déplacée. Mais si elle a été déplacée, ben là, il y a l'histoire qu'elle aurait été déplacée en Éthiopie, elle est dans une petite église, l'église de Sainte-Marie de Sion, où personne ne peut entrer, elle serait conservée là. D'autres prétendre qu'elle a été ramenée dans les montagnes, près du mont Horeb, dans une caverne où elle serait cachée. Et voilà qu'arrive notre histoire du jour. J'ai fait un long détour, mais... bon, et notre histoire du jour est la suivante. On sait que depuis quelques années maintenant, les services de renseignement américains rendent public, un peu par lot, on rend public des dossiers par la loi à l'accès à l'information. Et dans les lots de documents qui ont été récemment rendus publics, on a de ces documents dont on avait eu la chance d'en parler à quelques reprises, le fameux projet Stargate.
Oui.
Et ce projet Stargate, je le rappelle pour les auditeurs, il a eu lieu, il s'est déroulé entre 1970, grosso modo, et 1995. Et l'idée, c'était que les services de renseignement, en fait, trois services de renseignement américains particulièrement, la NSA, la CIA et la DIA. La DIA est un peu moins connue, c'est le service de renseignement de l'armée américaine. C'est un peu la CIA, mais de l'armée. Donc, ces trois services de renseignement-là ont fait front commun pour créer une unité spéciale où on utiliserait des voyants, des gens dotés d'une faculté, d'une perception extrasensorielle pour faire de l'espionnage. L'idée peut paraître fantaisiste, mais il faut se remettre dans le contexte. À la fin des années 60, début des années 70, c'était la période de la guerre froide et il y avait des rumeurs qui voulaient que les Soviétiques travaillaient à des projets semblables. Donc les Américains se sont dit, je ne sais pas si c'est vrai que la perception extrasensorielle existe, mais si elle existe, ne prenons pas de chance et évitons de se faire damer le pion par les Soviétiques. Donc on a mis en place cette fameuse unité Stargate. Et là, ce qu'on apprend dans les documents de Stargate, la façon dont ça fonctionnait, on donnait des cibles. Hein? Donc, on donnait aux voyants qui se réunissaient. La plupart des expériences ont lieu à Fort Meade, qui se trouve en Virginie. Donc, il y avait des locaux qui avaient été organisés et on donnait aux voyants des coordonnées. Généralement, c'était une latitude et longitude,
oui,
ou simplement une carte géographique sur laquelle il n'y avait aucun élément de repère ou une photographie satellite. Et ces gens-là essayaient par un mécanisme, si on croit la perception extrasensorielle, là, on est toujours ici, on marche, on est d'accord que pour notre conversation, nous marchons sur des œufs.
Oui.
Donc, si on accepte la perception extrasensorielle, ces gens-là devaient utiliser une faculté qui s'appelle le remote viewing, ou vision à distance. Et c'est un peu comme s'ils projetaient leur esprit dans ce lieu. Ils faisaient voyager leur esprit dans ce lieu et essayaient de voir ce qui se trouvait sur place. Et là, on apprend que dans un de ces documents-là, et je le lis sous la main, écoute, c'est intéressant, intéressant ou à tout le moins amusant.
Ben oui.
Dans une séance qui a eu lieu le 5 décembre 1988 avec le voyant numéro 32. On ne sait pas c'est quoi son nom.
Ah, il est anonyme.
Oui, il est anonyme. Donc, le voyant numéro 32, on lui a donné une cible qui se trouvait au Moyen-Orient. Et donc, on lui a demandé, l'objectif premier était de voir, on essayait de localiser des otages qui avaient été enlevés par des groupes islamistes terroristes. Et là, le type se plonge dans ce lieu-là, et là, il commence à décrire, on ne lui a pas demandé de chercher l'Arche d'Alliance, là. On s'entend bien, là. On lui donne une cible, on se dit, voilà, on est à la recherche de gens qui auraient été enlevés par des groupes terroristes, et là, il se met à décrire, écoute, à un moment donné, il décrit une boîte, un coffre, puis là, il dit même, tu sais, « It is decorated by... » with Sephrin, hein, avec des séraphins. Les séraphins, c'est des anges. Hein. Il décrit ça. Il dit, je vois un coffre. Et là, il le décrit. Il dit, il est même décoré par des séraphins, hein, des anges. Au-delà de son témoignage ou ce qu'il dit, il y a des dessins. Hein, je les ai sous la main aussi. Il décrit une synagogue ou une église quelconque avec une espèce de dôme. Donc,
on ne sait pas si c'est
une synagogue ou une mosquée, mais en tout cas, c'est une forme plus ou moins octogonale avec un dôme, il décrit ça. Il dit même qu'il y a des souterrains, il voit des chambres mortuaires, et dans ces chambres mortuaires-là, il fait même un dessin où il aligne 8 momies l'une à côté de l'autre. Donc, il décrit cet endroit-là, et tu comprends, il n'est pas parti avec l'idée « je vais trouver l'Arche d'Alliance », mais la description qu'il fait à la fois du coffre, avec les séraphins, Écoute, et la description des souterrains, écoute, l'église avec le dôme, là tu te dis, il n'est pas à bonne place, il décrit le dôme du rocher, c'est ça qu'il décrit dans le fond, il décrit le dôme du rocher et les corridors, les souterrains sous le dôme du rocher, c'est l'impression que l'on a, ou bien il existe ailleurs dans le désert du Moyen-Orient une autre mosquée ou une synagogue ou une église qui ressemble plus ou moins au dessin qu'il a fait, où serait peut-être caché ce coffre avec les séraphins. Donc, c'est amusant de lire ça. Bon, ça nous dit pas exactement c'est où. Et là, ben, évidemment, on n'a pas une recherche qui a été menée pour essayer de localiser cet endroit-là. La seule chose que l'on a, c'est 4 feuilles de papier avec le descriptif que notre bonhomme a donné de l'endroit. Mais je pense que ça va sûrement alimenter beaucoup d'intérêt que cette espèce de vision à distance de l'Arche d'Alliance.
Mais ça bon. Permet de rétrécir pour dire que du moins c'est au Moyen-Orient, peut-être. Ça correspond à la description et peut-être à un portrait robot, là.
Ouais, et c'est amusant qu'il soit arrivé avec ça, parce que tu sais, on se dit, ben, si on y avait posé la question, essaie de voir où se trouve l'Arche d'Alliance, et là il se met à nous décrire un coffre avec des séraphins. Bon, c'est bon, là, il est parti avec le principe de l'Arche, et je pense que les gens qui ont le moindrement un peu de culture religieuse savent à quoi ressemble l'Arche d'Alliance. Mais lui, il n'est pas parti avec ça, il est parti sur le principe qu'il devait essayer de trouver des otages au Moyen-Orient. Mmh. Et finalement, il débouche avec une description de l'Arche d'Alliance cachée quelque part dans un souterrain avec des momies et sous une église ou une mosquée ou un temple, à tout le moins, qui a une espèce de dôme et qui est de forme plus ou moins octogonale.
Et on n'a jamais osé creuser ou faire de fouilles archéologiques justement à cause de conflits de religion. Écoute, c'est fou, ça.
Tu sais, des fois, là, je te fais une petite confidence. Tu sais, des fois, oui. j'ai dit quelque chose, tu te rends pas compte que c'est une bêtise que t'as dit. Puis là, on te fait remarquer de manière polie que t'as dit une bêtise. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec l'affaire, l'histoire du Dôme du Rocher.
Okay.
Quand je parlais avec les archéologues, hein, j'étais sur des sites de fouilles qui avaient lieu à Jérusalem, parce qu'il y a une archéologie biblique qui existe. Hein. Il y a des archéologues qui fouillent les lieux saints puis essaient de faire confirmer ou d'infirmer des récits bibliques.
Le vrai du mythe, un peu.
Oui, on a retrouvé récemment la fameuse piscine de Sinoé où Jésus guérit l'aveugle. Hein. Il dit, bon, ben voilà, il met de la boue sur les yeux, va te laver à la piscine de Sinoé. C'est un grand bassin qui se trouve au cœur de Jérusalem. Et on ne savait pas où ce que c'était. On a cru longtemps que cette histoire-là était une histoire inventée, mais il y a quelques années, les archéologues ont trouvé le fameux bassin en question. Donc, on voit que, ça ne veut pas dire que le récit de Jésus qui guérit l'aveugle est vrai, mais on voit que l'auteur de ce récit-là, les évangélistes, qui ont écrit le récit, bien évidemment, ils se référaient à des lieux qui existaient.
Pour de vrai, oui.
Bon, qui existaient pour de vrai. Donc, et c'est un peu le principe de l'archéologie biblique, essayer de confirmer ou d'infirmer certains épisodes qui sont rapportés dans les Saintes Écritures. Et alors que je parlais, j'étais sur le chantier, là, je me vois encore avec mon petit balai, là, en train de dépoussetter des espèces de poteries.
Et là, ça doit être cool, ça.
Et là, j'étais à l'archéologue qui était là, un monsieur fantastique qui appartenait à l'école d'archéologie biblique de Jérusalem, l'équipe, l'archéologie française de Jérusalem, et des gens qui sont très, très impliqués. Et là, je lui dis, ben là, si l'Arche d'Alliance, elle est cachée sous le dôme du rocher, bon, on n'a rien qu'à aller creuser sous le dôme du rocher.
Point, point.
Et là, pendant...
écoute, t'as senti les secondes, hein?
J'ai senti les criquets, tu sais, les criquets. Là, il me regarde... Et là, je vois dans ses yeux qu'il est en train de se poser la question, est-ce que ce type-là est assez bête pour m'avoir posé cette question-là ou est-ce qu'il plaisante?
Okay.
Et là, quand il a compris que j'étais effectivement assez bête pour lui poser la question, il me regarde en souriant puis dit... Creuser sous le dôme du rocher, c'est déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc, ça venait de mettre... Et là, je venais de comprendre, effectivement, il y a la ville de Jérusalem, en fait, elle est comme séparée en 4 quartiers importants. Hein, un quartier qui est juif, un autre les coptes, un autre c'est les musulmans, puis les autres les chrétiens. Et ces groupes-là tiennent mordicus à... l'homogénéité de leur territoire. C'est leur territoire. Puis, il n'est pas question que des archéologues aillent creuser sous le dôme du rocher avec un.
C'est comme pas ta gouverne, en fait, de le faire.
Voilà, c'est ça. Il y a une espèce de. C'est ça. C'est chacun a sa chasse gardée. Et quand on comprend la dévotion religieuse, ben, effectivement, je vois mal quelqu'un arriver avec un pic, un marteau, commencer à creuser sous le plancher du Dôme du Rocher, qui est d'ailleurs une mosquée qui est magnifique. Là. Quand on approche de la mosquée, on voit qu'elle est faite avec comme toutes sortes de petites pièces de porcelaine, une mosaïque. C'est vraiment un travail magnifique. C'est beau. Écoute, je reste sans mots. Hein, ce que j'ai vu là... m'a vraiment bouleversé. Là. Ça a été fantastique. Même si on n'est pas croyant, marcher dans l'histoire, côtoyer ces temples-là, c'était merveilleux. Et je ne te cacherai pas que quand je marchais sur la plateforme où se trouve le Dôme du Rocher, je me suis dit que l'Arche d'Alliance était peut-être sous mes pieds. Mais bon...
Est-ce qu'on va le savoir un jour? Peut-être qu'un jour, une technologie permettra de regarder dans des souterrains sans rien creuser, sans rien briser. On va l'espérer. Des genres de drones ou de les détecteurs de métaux ne se rendent pas encore, malheureusement.
Non, c'est ça. Peut-être que dans un avenir plus ou moins lointain, on va développer des techniques non-invasives pour pouvoir faire de l'archéologie. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra avoir des ententes avec les autorités locales. Mais écoute, pour l'instant, c'est quelque chose de tout à fait là, d'impensable.
C'est un berceau quand même chaud de l'humanité aussi pour avoir une entente. Ouais. le mot magique, là, l'entente. Et,
Le plus loin où je suis allé, hein, il y a des gens là-bas qui connaissent, évidemment, c'est un peu comme les locaux ont toutes sortes de petites connaissances hein, qui apparaissent pas dans les livres, tout ça.
Ouais.
Et il y a des locaux là-bas qui m'ont dit, écoute, il y a une entrée pour aller dans les citernes qui sont sous l'ancienne ville de Jérusalem.
Mmh.
Et c'est vraiment labyrinthique. Là. Et donc, je suis descendu avec ces gens-là, j'ai marché dans les fameuses citernes, mais à un moment donné, on s'y perd. Là. Tu ne peux pas aller trop loin. Et éventuellement, on arrivait, quelqu'un me dit, là, à partir d'ici, on tombe dans ce qui est le quartier musulman. Donc, et si on se fait surprendre là, écoute, tu
c'est
comprends, moi, j'ai pas envie de me retrouver dans une prison musulmane.
Ça va te prendre un autre voyant pour te trouver, Christian.
Oui, quelque part en Turquie, là, tu sais, là, j'ai dit, tu sais, le midnight hour, là, j'ai dit, non, c'est pas pour moi, ça. Bon, fait que, merci, bonsoir, non. Mais c'est vraiment fabuleux, parce que quand tu déambules dans ces lieux-là, tu marches dans 4-5 000 ans d'histoire. Tu sais, c'est comme... Tu ne peux pas ne pas être troublé par cette réalité-là que tu as sous les pieds. Là, tu sais, là,
c'est impressionnant, en effet.
Oui, absolument. Mais bon, bref, c'est ça. Je trouvais cette nouvelle absolument amusante. Là, on a beaucoup dérivé sur l'Arche d'Alliance. Mais bon, si tu le veux, prenons une pause. Et...
Au retour, est-ce que tu me parles d'un genre de Nessie du Congo?
Ben oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Mokelimbembe. Je vais te parler du Mokelimbembe.
Restez là, on est de retour dans quelques minutes. Je te laisse le dire parce que je vais me planter à chaque fois. Restez là, on s'arrête 2-3 minutes ici même à Radio X.
Radio X Files. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission, Christian, c'est toujours un plaisir renouvelé à chaque vendredi de faire des émissions avec toi. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est toujours trop rapide. Donc...
Effectivement, il va falloir négocier ça avec les patrons. On peut pas s'arrêter comme ça.
Avec plaisir. Ça prendrait au moins 90 minutes parce qu'il nous en reste une dizaine à peu près pour parler du Mokelimbembe.
Le Mokelimbembe, écoute... D'abord, pour te situer, hein, en 1912, Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, publie un roman qui s'appelle « Le monde perdu ». Et dans « Le monde perdu », il raconte, en fait, son histoire tourne autour d'un lieu, en fait, au Venezuela, qui s'appelle le plateau de Romera, Roraima. Voilà, j'ai toujours de la difficulté à le prononcer.
C'est correct. Roraima. Dans un endroit du monde, les choses sont plus dures à prononcer un petit peu.
Et en fait, c'est un plateau très mystérieux parce que c'est vraiment comme un espèce de rocher qui est soulevé de la terre, un grand plateau soulevé de la terre qui monte quand même à 2800 mètres d'altitude. Et il n'a été conquis. Hein, on est arrivé au sommet de ce plateau-là qu'en 1884. Donc, évidemment, on ne savait pas ce qu'il y avait sur le plateau. Puis c'est gros, là, c'est très, très gros. On imaginait, hein, c'était le 19e siècle, c'était l'ère de la paléontologie. Les paléontologues nous disaient, ah, il y avait des dinosaures, on avait déjà trouvé des ossements, mais vraiment, là, on avait une espèce de vision. On avait surtout une échelle historique qui replaçait les dinosaures dans leur contexte. Hein. Tout ça, cette paléontologie, elle a grandi, elle a évolué, elle est devenue une science au 19e siècle. Donc, quand Arthur Conan Doyle publie son Monde perdu, ben, il situe sur ce fameux plateau des animaux préhistoriques qui auraient vécu en marge de l'évolution du reste du monde. Et c'était une idée qui était très populaire, c'est au début du 20e siècle, de croire qu'il pouvait y avoir des régions du monde où des animaux préhistoriques avaient survécu. Hein. Le monde n'était pas aussi documenté, aussi cartographié et vu qu'on peut le voir maintenant avec les satellites. Et bon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où personne n'est allé ou qu'on n'a jamais vu. Là. Les zones inexplorées, jamais explorées, sont de moins en moins nombreuses. Mais au début du 20e siècle, hein, on était avant même l'avion, donc il y avait une espèce de fantasme autour de ça. Et c'est là qu'apparaît le mot Kolimbembe. Hein, on est au début du 20e siècle, on est dans le Centrafrique, il y a beaucoup de colons anglais, hein, c'est une domination des Britanniques à cet endroit-là, notamment pour des exploitations agricoles de thé et tout le reste. Et c'est là, et il y a aussi beaucoup d'Allemands qui se partagent le territoire. Et alors qu'on est en train d'instaurer, de mettre en place différentes colonies, il y a ces récits qui nous arrivent du Congo. Et les récits du Congo, on a des communautés qui parlent, c'est quasi inaccessible. Hein. Tantôt, quand je te parlais de l'Arche d'Alliance, hein, on est allé en Éthiopie, puis j'ai voulu aller jusqu'au lac Télé au Congo.
Okay.
Puis on a viré de bord parce que c'est inaccessible, c'est trop loin.
Okay.
Mais il y a des communautés, évidemment, des communautés autochtones qui vivent dans ces régions-là. Et quand ils ont entré en contact avec les premiers colons, il disait que, et en particulier au lac Télé et dans les marécages qui autour, il disait qu'il y avait un animal mystérieux. Il l'appelait le Mokolimbembe. Mokolimbembe veut dire, hein, c'est en langage lingula, ça veut dire le barreur de rivière. Évidemment, quand au début de ça, il y a un animal mystérieux, gros, on s'imagine qu'il parle d'un éléphant ou d'un hippopotame, mais c'est pas de ça qu'il parle. Ils disent non, ça, c'est un animal étranger. Le Mokolimbembe n'est ni un éléphant, ni un hippopotame. Et là, en leur montrant, rappelle-toi, là, on est toujours au début de cette paléontologie nouvelle, on commence à voir des illustrations, des dessins, et là, quand on montre à ces gens-là des dessins de ces animaux préhistoriques, qui est dans l'air du temps, hein. C'est l'air du temps où on croit qu'il peut y avoir des survivants de la préhistoire. Alors, quand on montre à ces communautés des livres et des dessins d'animaux préhistoriques, ben, beaucoup d'entre eux reconnaissent un sauropode. Les sauropodes, c'est un peu comme un brontosaure.
Ouais,
c'est un gros animal avec une très longue queue, puis une longue tête, là, un long cou avec une petite tête au bout. Là. Ça, ce sont des sauropodes. Et ils reconnaissent des sauropodes en disant « ça ressemble au Mokolimbembe, mais il n'est pas aussi gros. » Donc, si le Mokolimbembe existe, ça serait une espèce de dinosaure, un sauropode nain. Hein, parce qu'il ferait 7 ou 8 mètres de long, donc on est loin des 30 ou 40 mètres de long des gros sauropodes de la préhistoire. Donc, l'idée va gagner du terrain que quelque part autour du lac Télé vivrait peut-être un sauropode nain. Et ce sauropode nain, ben on l'appelle le Mokolimbembe. C'est assez étonnant parce que entre les années 1910, en fait, les premiers récits qu'on collige, c'est en 1913. Et à partir de 1913, jusque, je te dirais, dans les années 60, on retrouve de manière un peu épisodique des récits où des gens, des voyageurs, vont raconter avoir vu le Mokolimbembe. Même dans les années 80, une expédition va être menée à partir d'un groupe de cryptozoologues des États-Unis, notamment de l'Université de Chicago. Ils vont se rendre sur place. Ils ne verront pas la créature, mais ils vont prendre des photographies d'empreintes qui ressemblent à des empreintes de pieds d'éléphant, mais qui pourraient être différentes. Okay. Entre un pied d'un sauropode et un pied d'un éléphant, quand tu as une dépression dans le sol, je trouve que c'est tiré par les cheveux.
Oui, bien, il y en a un plus facile à conclure qu'un autre. Voilà.
Ouais, c'est, bon, moi, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un éléphant qui est passé par ici. Mais bon, on conclut que c'est peut-être un sauropode. Mais bref, à partir des années 80, je te dirais que les récits ont disparu. Ou bien le mot Kalimbembe est mort, ou il est disparu de la mémoire collective. Et là, voilà que depuis quelques mois, de nouveaux récits apparaissent, et particulièrement, il y a des naturalistes locaux qui sont là, qui étudient la déforestation, qui est épouvantable dans le Centrafrique. On mentionne tout le temps l'Amazonie, mais le Centrafrique également est en train d'être littéralement ravagé par la déforestation. Et là, alors que ces naturalistes locaux sont là pour s'assurer qu'on protège les écosystèmes, ils rencontrent des gens, des communautés qui vivent autour du lac Télé, qui leur parlent à nouveau du mot Kalimbembe.
Okay.
Et là, tu dis, tiens, le retour du mot Kalimbembe. Moi, quand j'ai lu ces récits-là, je dis, tiens...
Je ne l'avais pas vu venir.
Non, ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait pas vu de récits de gens qui disent avoir vu le mot Kalimbembe. Mais quand même, il faut se rappeler que le mot Kalimbembe pourrait être autre chose aussi. Ce n'est pas forcément... Même si des gens ont dit « Ah, ça ressemble à un sauropode », je te rappellerai que dans la même région du monde, on a eu Gustave. Je ne sais pas si tu savais qui est Gustave. Je ne sais pas si tu sais qui est Gustave. Gustave était un crocodile du Nil qui aurait fait plus de 300 victimes sur la rivière Rudzizi qui se trouve au Burundi. C'était un crocodile littéralement hors norme. Est-ce que le mot Kalimbembe serait simplement un crocodile hors norme ou un animal local hors norme et qui, un peu dans l'imaginaire collectif, a été transformé en d'autres choses et auquel une espèce de culture européenne est venue donner de nouveaux aspects en faisant de lui un sauropode nain jailli de la préhistoire pour occuper les marécages du lac Télé.
Mais néanmoins... Je trouve que Gustave ne porte pas bien son nom, premièrement. Tu m'apprends son existence. Le deuxième, c'est qu'il aurait dévoré un hippopotame. Fait que quand même, c'est attaqué à beaucoup plus gros que lui.
Ouais.
Ah, barouette!
Gustave...
Mais Gustave, ça fait chat de dû, là. Ça fait pas crocodile tueur. Là.
Non, et depuis quelques années, on voit plus Gustave. Hein? Les derniers récits de Gustave...
on l'a perdu.
Les derniers récits de Gustave, vraiment, il y a même des... Je pense que la dernière photo qu'on a de Gustave, c'est 2015-2016. Après ça, on l'a pas revu.
Ça peut vivre jusqu'à combien d'années, un crocodile?
À peu près un siècle. Hein,
oh non! C'est pas rassurant!
Ben, là, on se dit, ou bien peut-être Gustave est mort, ou Gustave a peut-être été mangé par un hippopotame ou un autre crocodile, mais bon, ou le mot Kalimbembe, qui sait.
Ah, peut-être!
Mais tu vois, c'est un peu... Mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir, avec la déforestation, les communautés locales qui se remettent à parler de ce fameux mythe du mot Kalimbembe. Et je te rappellerai, d'ailleurs, le mythe du mot Kalimbembe a inspiré un film dans les années 70 ou 80 qui était Baby. Le titre du film, c'était Baby, et c'était l'histoire d'une famille qui rencontrait un dinosaure nain, et puis il l'adoptait quasiment comme un animal domestique. Là. Mais tout ça était basé sur la légende du mot Kalimbembe.
Oh mon Dieu! L'espèce de bibitte, là, dans un œuf, là. C'est ça? Ou je me trompe? Baby?
Oui, Baby, non, il trouve un dinosaure nain. Hein, okay. L'histoire, c'est qu'il trouve un dinosaure nain, hein, puis c'est ça. Puis il l'adopte, puis c'est ça. Survivant de la préhistoire. Mais, bref.
Je ferai mes recherches.
Oui, c'est ça. Mais bon, on nous ramène la légende du mot Kalimbembe. Donc, on verra si les naturalistes locaux vont obtenir de nouveaux récits. Et éventuellement, peut-être, en 2025, avec la multiplication des appareils photos, on va peut-être avoir une photo... Pas une photo floue quand même, non, une vraie photo, parce que des photos floues, ça, on en a beaucoup. On a toute une collection de photos floues qui vont du monde du Loch Ness aux ovnis, aux extraterrestres.
Ah, mais là, on va dans un autre niveau avec l'intelligence artificielle. On peut faire dire n'importe quoi à une photo, puis c'est presque parfait. Là. C'est au-delà des photos floues. On a trouvé d'autres techniques.
Ah oui, ça, absolument. Mais bon, espérons qu'on va éventuellement... J'ai bien hâte de voir quelle est avec la déforestation, de voir un peu quelle est l'ampleur que va prendre ces récits, ou à nouveau, est-ce qu'ils vont retomber un peu dans l'oubli. Mais c'est littéralement, là, 20 ans après, 20 ou 25 ans après la mort, littéralement, du Kalimbembe, c'est son retour sur l'avant-scène dans cette région qui malheureusement souffre exactement comme l'Amazonie d'une déforestation là, presque industrielle.
Abusive, ben oui, absolument. C'est le secret de la légende perdue en 85. Et c'est écrit sur Google, Christian, Baby Mopette. Là. Moi, j'étais là-dedans, là, dans une espèce de marionnette louche. Et j'avais pas le bon film.
Ah ouais, c'était louche. Pour être louche, je te confie, c'était louche.
C'était louche aussi. Oh, mais j'en prends bien note. C'est déjà tout le temps qu'on avait, mon cher. Je te remercie
dommage, j'avais plein d'autres bonnes histoires, mais bon, ça sera pour un autre tantôt.
Pour une prochaine fois. Je te souhaite un excellent week-end d'anniversaire. Je ne sais pas si tu as quelque chose de spécial de prévu, mais je te souhaite d'en profiter. Et on se retrouve lundi prochain de notre côté pour un Suspect X. Et je souhaite aussi un bon week-end aux auditeurs. C'est la sexploratrice qui s'installe dans les prochaines minutes.
Bon, elle va peut-être parler des fluffeurs.
Elle ne parle pas des fluffeurs ce soir, mais elle va parler, je pense, c'est fiscalité conjugale. Fait qu'il y a un petit peu plus sérieux comme sujet quand même ce soir.
Oui, moins intéressant. Toujours. Moins intéressant. moins sexy.
Effectivement. Merci, Christian. On se dit à lundi soir.
Merci. À lundi. Bye-bye.
Bye.